des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission spéciale car nous passons cette heure en compagnie de James Ellroy, l'auteur du Dahlia Noir et de L.A. Confidential, du splendide Ma part d'ombre, consacré à l'assassinat de sa mère le 22 juin 1958, resté inexpliqué alors qu'il avait 10 ans. C'est aussi l'auteur de Perfidia, son dernier roman, paru au printemps 2015, toujours chez Rivage Noir. Et ce Perfidia ouvre un nouveau cycle californien, un nouveau quatuor, on en parlera évidemment, notamment parce qu'il plonge aux sources de personnages bien connus de James Ellroy, comme le flic Dudley. Ellroy, oui, sera avec nous pendant une heure. Ellroy, le maître du roman noir américain, le Beethoven du roman de crime, comme il le dit lui-même, actuellement en France, à l'occasion du festival America à Vincennes, qui bat son plein jusqu'à demain, et auquel s'associe France Culture, 50 écrivains américains de fiction y sont attendus. 50, comme les États qui composent ce pays, seront là, mais nous, c'est James Ellroy qu'on a choisi d'accueillir parce qu'on l'adore, The Dog. Et lorsqu'il... et voilà. Et nous l'entendons aboyer, il aboie aussi bien aussi férocement sur la page en y jetant une encre toujours aussi toxique et fascinante. Bonjour, James Ellroy.
Hey Dad, what is that? Hangs on you like a baseball bat. Hey now Mama, that's that thing, it fits your wazoo like a diamond ring.
Voilà, j'en profite pour présenter notre traducteur Xavier Combe qui est ici avec nous. Bonjour Xavier Combe, alors qu'est-ce qu'il vient de dire, James?
Oh là, les petites interventions comme ça de James Ellroy sont très difficiles à interpréter, notamment en simultané. Celle-ci est mieux dans son jus, je trouve.
Ouais, mais vous ne voulez pas nous en dire plus?
Non.
Bon, d'accord. Voilà, vous réécouterez l'émission, vous essaierez de traduire vous-même. Bienvenue dans le temps des écrivains, James Ellroy. Est-ce que vous êtes heureux de revenir en France, qui est quand même l'endroit de la planète où votre cote littéraire et vos ventes, on sait que c'est important pour vous, sont au plus haut?
I love France. I love coming here to sell books.
J'adore venir en France, notamment pour vendre des livres. Le peuple français, les lecteurs français, je les adore. J'adore venir ici pour vendre des livres avec mon formidable éditeur Rivage.
Est-ce que vous comprenez et comment vous expliquez le fait que les Français soient plus réceptifs à vos livres que, je ne sais pas, des Espagnols ou des Allemands, par exemple?
France and American culture go very deep.
Ah, la culture américaine en France est très forte.
The hard-boiled canon.
Donc, tout ce qui est le hard-boil, autrement dit, tout ce qui a influencé les philosophes existentialistes.
Don't forget.
Il ne faut pas oublier
Albert Camus,
que Albert Camus
credited James M. Cain's novel, The Postman Always Rings Twice.
Cité
with inspiring
le facteur
L'étranger.
Sonne toujours deux fois. Il a dit que c'était une source d'inspiration pour L'étranger.
J'ai lu que vous alliez reverser une partie de vos droits d'auteur aux victimes des attentats parisiens du 13 novembre. Vous avez fait ça, James Ellroy?
I did. I gave my French royalties
oui,
for the year.
Oui, c'est le cas. J'ai donné l'ensemble de mes droits d'auteur de l'année 2015 perçus en France pour les victimes de ces attentats.
Et pourquoi vous avez fait ça, James Ellroy?
Because I love France.
Parce que, je vous l'ai dit, j'aime la France. Je me sens un petit peu français dans l'âme.
Quel regard, je voudrais savoir, puisque vous arrivez pour le Festival America, vous retrouvez cette France que vous aimez, quel regard vous jetez sur ce pays, quel regard d'écrivain aussi, hein, sur ces Français qui sont frappés par des attentats, qui sont confrontés à des tueurs qui tuent au nom d'un dieu, alors qu'en France, la question de Dieu, on l'a pensé réglée depuis très très longtemps.
We have secular freedom in France.
En France, c'est vrai que l'on jouit de liberté laïque. On jouit d'une certaine liberté laïque en Amérique aussi.
As someone once notably said,
comme l'a déjà dit quelqu'un dans les années 60,
my freedom to hit you in the nose,
ma liberté de vous donner un coup de poing dans le nez s'arrête
where your nose begins.
Là où votre nez débute.
Thus, all
ainsi,
imprecations, and incursions, and violations.
Toute violation ou transgression
of the criminal and social code
d'un code pénal et social, quel qu'en soit le criminel, eh bien, il faut traiter cela.
Est-ce que vous croyez toujours, vous, en Dieu James Ellroy, et quel est ce Dieu, et est-ce qu'il a un rôle dans votre activité d'écrivain, dans ce grand projet littéraire que vous accomplissez, que vous avez encore à accomplir? Est-ce que vous pensez à lui quand vous écrivez? Est-ce qu'il se manifeste là? Parce que c'est vrai que vous dites souvent que vous êtes un auteur chrétien.
Yeah, I'm a Christian.
Chrétien, je le suis, oui.
The way that my faith manifests itself in the books that I write
se manifeste dans mon écriture
is the deeply
pain,
uncomfortable.
C'est quelque chose d'assez douloureux.
Ways that my characters
que l'on ressent chez mes personnages.
Come to
mes personnages sont amenés à renoncer à certains aspects d'eux-mêmes. Et ils sont complices des péchés du monde, en quelque sorte, et ils en souffrent.
I am not voluntarily standing on my pulpit.
Ce n'est pas délibérément que je suis là à prêcher l'Évangile. Mais quoi qu'il en soit, j'essaye de dépeindre des êtres humains dans tout ce qu'ils ont d'ambiguïté, car ils cherchent la rédemption et c'est un long chemin plein d'embûches.
Alors ça, c'est ce qui concerne vos personnages. Mais est-ce que vous, dans votre activité d'écrivain, dans votre assaise d'écrivain, est-ce que justement cette présence divine se manifeste? Est-ce que vous vous sentez une mission aussi, finalement, tant qu'écrivain? Je ne vais pas dire une mission divine, mais vous avez à accomplir ça et c'est un ordre supérieur qui vous le demanderait.
I have a gift. It comes from God.
J'ai un don. Ce don m'a été donné par Dieu. Je remercie Dieu de m'avoir donné ce talent que j'ai.
As the founding being in my literary career.
Il s'agit de l'être fondateur de ma carrière littéraire.
What interests me is
ce qui m'intéresse,
the karmic consequences,
c'est les conséquences
of acts, both good and bad.
Au niveau du karma, des actes qu'ils soient bons ou mauvais.
The exposition of morality in literature,
l'exposition de la morale dans la littérature consiste à cartographier les ramifications du karma,
the consequences of immoral acts.
Les conséquences des actes immoraux.
Even my heroes and heroines
même
do bad things,
mes héros, aussi bons soient-ils, font des choses qui sont le mal.
This
mais il y a un prix à payer. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui m'émeut. C'est ça qui me pousse à dépeindre des êtres humains qui remplacent en quelque sorte leur propre pathologie, en mettant de côté l'aspect du péché qui est en eux.
In order to do the right thing,
ainsi,
in all of this,
ils essayent de faire le bien et dans tous
les récents en
romans, on retrouve cela dans tous ces romans à Los Angeles dans l'après-guerre.
Los Angeles étant mot à mot la cité des anges, donc évidemment c'est raccord. C'est-à-dire que l'idée de rédemption est possible au fond. Enfin, c'est une idée que vous prenez à cœur, l'idée de rédemption des personnages, le terme même.
I hate nihilism.
Ah, le nihilisme, c'est quelque chose que j'aborde.
I hate everything small
je
in literature,
déteste tout ce qui est petit dans la littérature large. Ou dans le théâtre.
I'm out to write big books.
Moi, mon dessein consiste à écrire de grands romans.
Expositing big swatches of American history.
Mon idée, c'est de mettre en lumière des grands pans de l'histoire américaine.
And big people.
Et de dépeindre des personnages éminents.
Faced with big choices.
Confrontés à des choix cornéliens, si je puis dire.
And overcoming big obstacles within themselves.
Et qui surmontent d'énormes obstacles qui sont en eux.
Je posais la question tout à l'heure de Dieu parce que j'ai lu que l'intrigue de Perfidia, par exemple, et je ne sais pas du tout si c'est comme ça pour les autres livres que vous avez écrits, et le prochain que vous écrirez, que toute l'histoire vous était apparue dans ce que vous avez appelé un flash synaptique. Qu'est-ce que c'est que ce flash? J'ai penser un peu au chemin de Damas, quoi, à Saint Paul prenant cette lumière et voyant ce qu'il n'avait jamais vu jusqu'alors.
Il y a 7 ans, j'étais dans mon bureau, je regardais par la fenêtre.
Cold Saturday night.
C'était un samedi soir, il faisait froid.
I was wondering why I didn't have a girlfriend.
Et je me demandais pourquoi je n'avais pas de petite amie.
And a flash came
et
to me.
C'est là que j'ai eu un flash.
There was a bus full of forlorn-looking Japanese Americans.
Sous mes yeux, un bus d'Américains japonais.
Being led through the snowbound mountains.
Que l'on emmenait.
Part of an
dans les montagnes enneigées. C'était dans le cadre d'un transport militaire. Il s'agissait de Japonais emprisonnés que l'on emmenait à un camp
in the Owens Valley, at the
dans la vallée d'Owens.
Synaptically,
donc,
in the course of
d'un point de vue synaptique,
seconds,
en l'espace de 2 secondes,
I had come up
j'ai vu cela et il m'est apparu donc
the conception of the second
la conception du deuxième livre de ma tétralogie.
Characters from the first
des personnages de,
already published.
Du premier livre étaient déjà là.
And the Underworld USA trilogy.
Et dans la trilogie, il y avait également des points communs.
In Los Angeles,
tout cela
World War II,
se passe à Los Angeles. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc les personnages sont bien plus jeunes que dans les livres précédents. Perfidia, le livre dont nous parlons, traite pas mal aussi de l'internement des Japonais.
Et ce flash synaptique, est-ce que vous lui donnez une explication?
C'est Dieu qui m'a dit, Elroy, mets-toi au boulot, écris-nous ces livres.
Comme si vous preniez vos ordres de lui.
Yeah.
Je sais que vous détestez parler de politique, James Elroy, mais j'ai l'impression que vous avez dit d'ailleurs vous-même que le lecteur américain se fiche complètement de l'opinion politique de ses écrivains. Et pourtant, en ce moment, j'ai vu que par exemple 600 écrivains, dont Stephen King par exemple, avaient pris position en signant une pétition contre la dangerosité de Donald Trump. Il a même eu ce tweet, Stephen King, « That anyone in America could even consider voting for this rabid coyote », il parlait de Donald Trump, m'étonne complètement. Hein. Et « rabid coyote », on peut le traduire par « coyote enragé ». Est-ce que vous comprenez que les écrivains américains, vous parliez de Camus hein, tout à l'heure d'ailleurs, s'engagent comme ça en politique? Et est-ce que vous vous engageriez?
No, I would not. I don't talk about politics.
Non, je ne m'engage pas. Je ne parle pas de politique. Je ne signe pas de pétition.
No, none.
Est-ce que vous votez?
Do you vote?
No.
Est-ce que vous tweetez?
Do you tweet?
No.
Alors parlons de Perfidia. Du coup, on a la réponse. Juste une petite précision. Pourquoi ne pas parler de politique?
Because I don't want to, because I
parce que je ne veux pas, et puis j'ai fait une promesse à ma femme, parce que c'est des conneries tout ça. Parce que Perfidia, voyez-vous, ça se passe en décembre 1941. Je me plonge dans cette époque de décembre 1941. Il n'y a rien après décembre 1941 en ce qui me concerne. Donald Trump et Hillary Clinton n'étaient pas nés. Moi non plus d'ailleurs. Votre interprète Xavier n'était pas né, et vous non plus, Christophe.
Donc vous ne participerez pas à cette grande bataille, finalement, qui est une élection, cette grande bataille romane. Que parfois.
Non.
Perfidia. Parlons de Perfidia, James Elroy. Premier épisode d'un nouveau quartet de Los Angeles où vous mettez en scène la rivalité. Bon, il y a une foule hein, de personnages, je crois qu'il y en a à peu près 80 si on les liste tous. Mais vous mettez en scène la rivalité de deux policiers, donc dans le Los Angeles des années 40, juste avant Pearl Harbor, où l'on oppresse les Japonais américains, qu'on rafle. Qu'on interne. Vous venez de le dire, je ne veux pas parler de politique car je suis dans le Los Angeles d'avant, dans l'histoire d'avant. Pourquoi continuer sur Los Angeles? Pourquoi toujours cette ville? Est-ce que vous ne l'avez pas assez essorée? Je cherche le mot en anglais.
Well, here's the deal. There's the LA Quartet.
Il y a la tétralogie de
the Black
LA. Dead,
the Big Noir, LA Confidential, White Jazz. Set between 1946.
Ça se passe entre 1946
and 1958.
Et 1958.
But then I leave LA. Mais
Je quitte Los Angeles et je me lance dans la trilogie de Underworld USA. Et là, je parle de Cuba, du Vietnam. Et ça, ça se passe entre 58 et 72. Puis, je reviens en arrière, je reviens vers les origines à Los Angeles. Et là, j'approfondis, je densifie mes sept premiers romans. Et je crée la deuxième tétralogie de Los Angeles avec un bon nombre des personnages réels ou de fiction qui sortent des deux premiers aspects de mon œuvre.
C'est très intéressant. Est-ce que vous pourriez expliquer ce terme de densifier vos romans? Est-ce qu'il s'agit de tendre de plus en plus, au fond, vers la vie réelle?
Everything. In the second LA quartet,
dans la deuxième tétralogie de Los Angeles,
serves to intertwine,
tout est conçu pour lier
the events,
les
and the
événements et les personnages que l'on trouve dans les sept romans précédents.
So what I've done
ainsi,
in Perfidia,
dans Perfidia,
is I have gone back,
je suis revenu en arrière pour me plonger dans le début chronologique de mon œuvre en tant que romancier historique. Je n'ai jamais écrit de roman qui se passe avant décembre 1941. Ainsi, ces quatre livres vont supplanter Le Dahlia Noir, 1949, Le Grand Nulle Part, 1950, LA Confidential, White Jazz, pour aller jusqu'en 1972.
C'est pareil, le mot supplanter, ça veut dire quoi? Que la nouvelle œuvre, non seulement densifie, mais efface progressivement le reste? Comment tout ça se compose? On a l'impression d'une cathédrale.
I am erecting a big edifice.
Je suis en train d'ériger un immense édifice. Il s'agit de l'histoire américaine.
As I reimagine it.
Et je la réimagine, cette histoire américaine.
Over a period of 31 years.
Et je couvre une période de 1941 à 1972.
On va en parler de cette histoire américaine, notamment de ces Japonais américains qui sont au centre de Perfidia. On parlera aussi de toute cette vie politique, cette vie policière, cette vie hollywoodienne que vous mettez en scène dans vos romans, James Ellroy. On va marquer une pause pour écouter votre premier choix musical. Vous avez choisi évidemment Perfidia, c'est la version de Glenn Miller, qui est comme la bande originale de ce roman Perfidia. On écoute tout de suite. Perfidia, c'est la version de Glenn Miller. C'est une chanson très importante pour James Ellroy qui passe cette heure avec nous. Pourquoi cette chanson est-elle si importante pour Perfidia au point que c'est le titre de votre roman?
It's a great song of the era.
C'est un morceau génial de l'époque. Il s'agit de trahison, ni plus ni moins. Perfidia, c'est une histoire de trahison et d'amour. La trahison de nations. La trahison d'idéaux.
Literally translated, et perfidia equals perfidy.
De perfidie. Perfidie ou trahison, donc.
Everybody is messing around, et sleeping with three or four different people.
Tout, chacun couche
book.
Avec trois ou quatre personnes différentes.
It's a 700-page novel in real time.
Un roman en 700 pages en temps réel qui se passe en l'espace de trois semaines.
When I read newspaper accounts,
lorsque j'ai lu des articles de presse
immediately following the Pearl Harbor,
de Los Angeles, juste après l'attaque de Pearl Harbor,
there was a great deal
je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'espace éditorial qui était consacré à la description de fêtes.
A lot of parties.
Il y avait plein de fêtes à droite, à gauche.
More or less the party at the end of the world.
Et c'est la fête de la fin du monde en quelque sorte.
Los Angeles
parce que Los Angeles, c'était le centre de l'industrie de la défense américaine, et nous étions menacés par des attaques aériennes japonaises.
You're sitting home with your wife and
donc
kids
vous êtes
one day,
à la maison avec votre femme et vos enfants, et puis on vous dit qu'il faut partir à la guerre.
Because Roosevelt had to.
Parce que Roosevelt.
What I think. 7 million men. He ultimately ended up drafting, and it could be you.
Envoyer 7 millions d'hommes à la guerre, ça aurait pu être vous ou moi.
It's drama, high stakes.
C'est théâtral. Les enjeux sont énormes. C'est une guerre mondiale.
Une guerre dont vous rappelez dans les premières pages de Perfidia, James Ellroy, que alors vous citez la radio Klan, hein, la radio d'extrême droite, où Roosevelt est appelé Rosenfeld, hein, évidemment, c'est plein d'antisémitisme, mais où il est dit que cette guerre, au fond, les Américains n'avaient pas tellement envie d'y aller parce que ça ne les concernait pas. Quelle est votre position, vous, sur ce sentiment qu'on a en lisant Perfidia, que au fond, il va peut-être y avoir une invasion japonaise, mais cette guerre-là, elle est faite en Europe et elle ne concerne pas les Américains.
Strategically, it was great concern.
D'un point de vue stratégique, c'est quand même une énorme préoccupation pour les États-Unis.
We did not want free Europe to be under Nazi rule.
Que l'Europe libre soit dominée par le nazisme, mais en même temps, nous n'avions aucune confiance envers les Soviétiques.
They were likely to become
les
our allies.
Soviétiques auraient pu devenir nos Because alliés
even though
parce que
they had recently
bien
been the allies
qu'ils aient
of
récemment
Germany,
été les alliés de l'Allemagne nazie,
Hitler, had broken
Hitler
the pact
avait rompu
Stalin,
le pacte avec Staline
and invaded Russia
et il avait donc envahi la Russie en juin 1941.
And then the Japanese bombed
Puis,
Pearl Harbor on
les Japonais 7. Ont bombardé Pearl Harbor le 7
no
décembre, et là, ça rigolait plus.
Alors, Perfidia donc commence avec le meurtre d'une famille de Japonais, les Watanabe, qui sont assassinés a priori rituellement. On pense au seppuku, hein, au suicide japonais. On prend connaissance avec votre roman de la situation de ces Japonais américains qui sont internés au prétexte qu'ils seraient une cinquième colonne. Qu'est-ce qui vous liait, vous avez parlé d'une vision hein, tout à l'heure, de ce flash synaptique, qu'est-ce qui vous liait imaginairement, historiquement, à ces Japonais en fait, à cette communauté? On vous en avait parlé, on vous en avait...
I was born in 1948.
Moi, je suis né en 1948.
I knew a kid in high school.
Je connaissais un gamin qui s'appelait Takahashi. Il était au lycée avec moi. Et c'était un type drôle.
In study hall.
Donc, on était
at the time of the Cuban
en
missile crisis.
Permanence. C'était l'époque de la crise des missiles
and we
cubains.
Were nihilistic
et
14-year-olds.
Nous avions 14 ans. On était des nihilistes.
Paper airplanes.
On lançait des armes à papier.
And we wanted the world
voilà ce à quoi on jouait. Et on voulait
cool.
que le monde explose parce que c'était
because
cool.
The atom bomb was cool.
Parce que la bombe atomique, c'était quand même cool.
Big mushroom cloud.
Vous voyez, ce grand champignon nucléaire.
Et Takahashi,
c'est le premier qui m'a parlé des camps d'internement japonais.
I thought, well,
et je me suis dit,
as bad as the Japanese attack on Pearl Harbor
les Japonais ont
was,
attaqué Pearl Harbor, c'est horrible, mais la plupart de ces Japonais américains, c'était de bons citoyens américains.
Later,
et De nombreuses années plus tard, lorsque je me suis mis à écrire Perfidia, je suis entré en contact avec le rapport Munson. Roosevelt, président, a envoyé Curtis Munson sur la côte ouest, c'était un homme d'affaires, pour qu'il s'intéresse de très près aux communautés de Japonais américains. Donc cet homme-là a fait un rapport au président en disant que ces gens-là étaient des Américains pitoyablement loyaux, je cite. Ainsi, la guerre avance, les forces japonaises se lancent des attaques atroces dans les îles pacifiques. Nous, Américains, nous sommes de plus en plus effrayés et on se disait qu'il était vraisemblable que le cœur de cette cinquième colonne japonaise se trouve là où il y avait le plus de Japonais aux États-Unis, Los Angeles, autrement dit, et aussi San Francisco. C'est pourquoi le cœur des rafles, c'était Los Angeles, mais aussi San Francisco.
En vous écoutant parler de James Ellroy, je voudrais savoir aussi comment vous avez parfois une réputation absolument sulfureuse, on dit droite, extrême droite. Or, quand on lit, par exemple, Perfidia, on découvre que quand vous reproduisez les radios antisémites, on comprend que vous êtes à distance de ça et que vous les ridiculisez. Quand on lit la façon dont vous retracez aussi cet internement des Japonais, la façon dont votre personnage de Ashida, le criminologue, se fait insulter par des racistes, on se dit au fond, est-ce qu'on s'est pas trompé sur James Ellroy ? Vous comprenez cette réputation affreuse d'extrême droite que vous traînez ?
Couple of things here.
Ah, je vais vous dire plusieurs choses.
Conservatives.
Les conservateurs sont contre le totalitarisme.
We believe in liberty, we believe
les conservateurs, j'en fais partie, font confiance à la liberté et croient à cela et à la liberté de mouvement des capitaux et des gens. Donc, pourquoi serais-je du côté du totalitarisme? Non. Ce personnage dont vous parlez, c'est quelqu'un de tout à fait honorable.
Non, mais même du racisme, puisqu'en fait, votre personnage subit le racisme, Ashida. Il se fait traiter de puto jap par les Mexicains. Sans arrêt, finalement, vous êtes du côté des opprimés, presque. C'est l'humaniste, James Ellroy.
I am not a humanist.
Non, humaniste, je ne le suis pas. Je suis théocrate.
Et puis,
d'ailleurs, je vais vous dire ceci. Le concept de racisme n'existait pas en 1941.
You would not find it in the daily usage, the daily parlance.
On ne trouvait pas ce terme de racisme. Et cependant, il faut garder à l'esprit que bon, je suis réactionnaire et je réagis contre l'ensemble du monde. Je suis anti-tout. Je n'ai jamais utilisé d'ordinateur. Il y a plein de choses dans le monde qui me troublent, qui me mettent mal à l'aise. Et donc, je me tiens à distance. Je n'ai pas de téléphone portable. Je n'en ai jamais eu.
Juste réactionnaire, est-ce que vous pourriez définir? C'est celui qui réagit simplement? C'est aussi simple que ça? I'm a reactionary. What does it mean?
Aside from the world at large,
je recule.
And I say, j'accuse. J'accuse.
Voilà. Alors, comment vous accusez précisément? Vous l'avez rappelé, vous n'utilisez pas Internet. Je crois que le téléphone n'est pas non plus votre meilleur ami. Vous n'avez pas d'ordinateur. Comment vous travaillez, James Ellroy, par exemple, pour enquêter sur cette époque que vous avez connue un peu, mais vous étiez un tout petit enfant? Comment on fait pour se plonger dans ce Los Angeles du passé? Vous avez parlé de journaux, de newspapers tout à l'heure. Comment vous travaillez pour convoquer ce passé, pour vous immerger dedans, pour écrire?
I make it all up.
Non, j'invente tout.
In the end, it's not the research.
Non, en réalité, ce n'est pas tellement un travail de documentation.
In the end,
au bout du compte,
certified occurrences.
Il y a des occurrences démontrées de l'histoire des États-Unis, de l'histoire de Los Angeles.
It's a question of
Il s'agit pour moi d'extrapoler dans mon œuvre de fiction à partir de faits historiques bien établis.
Mais ces faits historiques, vous en avez la trace comment ? Par exemple, Elizabeth Short, le massacre atroce, ou le camp d'internement des Japonais, il ne suffit pas d'avoir des traces évanescentes dans le cerveau. Sur quoi vous appuyez, en fait, historiquement, pour écrire ?
I hire a searcher, usually my personal assistant at the time,
un assistant,
to compile fact sheets and
et je demande à cet assistant de me faire des fiches chronologiques. Ainsi, je suis fidèle à la réalité historique. Ensuite, à partir de là, j'invente tout, je vous l'ai dit. Je laisse libre cours à mon esprit. Et j'ai un esprit qui est tout à fait bien compétent, non pas pour décrire le monde actuel, parce que je suis assez frappé et déconcerté par tout ce que je vois autour de moi, mais mon esprit sait se concentrer sur telle ou telle chose.
Alors, il fait, James Ellroy, un geste. Alors, je mettrai d'ailleurs peut-être la photo sur le site internet. Qu'est-ce que ça veut dire, ce côté ? Ce sont des cornes que vous faites ? Pourquoi ? Des antennes ?
Les antennes.
J'ai des antennes tournées vers la tâche à laquelle je me livre. Et cette tâche, dans Perfidia, consiste à me pencher sur l'histoire sociale de Los Angeles en décembre 1941. Le livre suivant va jusqu'en mai 1942. Je viens d'écrire un plan pour cela. Ce plan fait 500 pages. Et mon cerveau, avec ses antennes, met l'accent là-dessus.
Le plan fait 500 pages. Et c'était 70 pages pour Perfidia.
700 pages.
C'est-à-dire que le plan est presque en fait de la même taille que le roman final.
Everything that needs to transpire
oui, tout ce qui doit être exprimé dans le livre, l'intrigue, tous les faits historiques, la vie interne des personnages, l'histoire des personnages, tout ça, je sais tout. J'arrive armé.
Et pardon pour cette maniaquerie, James Ellroy, mais si le plan fait pratiquement la même taille que le roman, est-ce que vous jetez des pans entiers du plan si on a pratiquement la même ampleur, le même volume ?
Une fois le plan rédigé, il faut que j'écrive le livre, avec les descriptions physiques, tout le monologue interne, tous les dialogues.
Oui, mais ça devrait faire 2000 pages pour un livre, si vous partez de 700 pages de plan.
Donc, j'écris à la main. On arrive à un manuscrit de 1200 pages.
Puis, j'arrive
à un manuscrit, un tapuscrit de 900 pages. Et puis, on arrive à un roman de 700 pages. Voilà.
Vous jetez beaucoup de choses, vous retravaillez énormément.
Non. It's there.
Non, tout est en place.
Tout est là. Thanks God.
There you go.
Vous, ces Japonais dont vous nous racontez, ces Américains japonais dont vous nous racontez le destin, par exemple, comment les Américains les forçaient à tourner des films pornographiques, comment on leur offrait de se transformer en Chinois par le biais de la chirurgie esthétique, tout ça s'est inventé ou c'est basé sur des recherches ? Est-ce qu'on peut se fier à ce que raconte James Ellroy ?
Here's the thing I never answer. It's the one question I never answer.
C'est une question à laquelle je ne réponds jamais. Dans ces romans historiques, on me demande ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas.
You can trust fiction.
On peut faire confiance à la fiction si on fait confiance à l'écrivain.
The moral truth.
Mais on peut faire confiance à la fiction parce qu'elle va vous donner la vérité morale.
But my job is to
Mais
rewrite
moi,
history
mon boulot, c'est de réécrire l'histoire selon mon propre cahier des charges.
It's a benign form of megalomanie.
C'est une forme bénigne de mégalomanie.
Comment vous faites ? Vous avez parlé de Zola tout à l'heure. Moi, j'ai envie de vous parler de Balzac. Bon, il y a des intrigues, il y a de multiples sous-intrigues dans vos romans, James Ellroy. 80 personnages à peu près dans ce prochain Quatuor de Los Angeles. Balzac, lui, faisait des poupées pour se repérer. D'ailleurs, des poupées que vous pouvez voir à la maison de Balzac, à Paris. Des poupées en porcelaine et en tissu pendant la comédie humaine pour se repérer. Comment vous faites, vous, pour vous repérer dans ces, différents personnages, dans cette foule de personnages.
I have a good mind for plotting.
Moi, l'intrigue, ça me connaît.
I have a good mind for human beings.
Je comprends bien les êtres humains.
I have a good mind.
Encore une fois, les antennes.
Les antennes, le geste.
For history.
Et ça, c'est vrai pour l'histoire aussi.
And I can keep track of all
et j'arrive à tout suivre. Hein.
And the, for instance, this new book.
Je vais vous donner un exemple. Le nouveau
second
livre.
Book of the second Allegro.
Donc, il s'agit du deuxième livre de la deuxième tétralogie de Allegro. Le plus dur est derrière moi, parce que j'ai écrit le plan. Le plan est du reste écrit à la machine maintenant. Dans 15 jours, j'irai voir mon éditeur à New York, et puis je me mettrai à mon bureau et je me mettrai à écrire. Et à mes côtés, il y aura le plan. Bien, tapé là, et ensuite, de l'autre côté, j'ai des feuilles blanches et j'ai aussi un stylo entre les deux. Et je regarde les notes, ah oui, chapitre 1, voilà, et je me lance et j'écris. Et puis voilà, c'est tout.
Ça paraît tout simple. Vous avez dit, James Ellroy, qu'avec ce livre, vous aviez compris, j'ai enfin compris le roman, c'était votre phrase. Et quand je suis tombé sur cette phrase en préparant l'émission, je voulais savoir ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que vous avez compris de plus dans la technique du roman, dans l'esprit du roman ?
What I came to understand in Perfidia,
en écrivant Perfidia, j'ai compris que le roman est une synthèse de la langue, du style, de la forme, de la technique, de la caractérisation, de la personnification.
Et
c'est l'expression de la diversité des personnifications et des motivations. Mes compétences techniques, j'ai pu les aiguiser. Je me suis rendu compte que toutes mes compétences ont pu converger dans l'écriture de Perfidia.
Et c'est quoi ? C'est dans la façon de ciseler les personnages ? C'est une façon de faire certains cadrages ? Une science du dialogue ? Qu'est-ce que vous sentez maîtriser beaucoup mieux qu'avant ?
I control the meeting point of all these aspects.
Je maîtrise le point de convergence de tous ces aspects.
Comment on imagine l'écrivain là-dessus ? Vous parlez de point de convergence, il est au centre comme quoi ? Comme un bâtisseur, comme un...
Since my superstructure for these big books of mine is
il y a une superstructure.
So comprehensive.
Et cette superstructure, elle est
it frees my mind
parfaitement bien remplie. Tout y
to
est.
Live in
ainsi,
the individual scenes.
Cela libère mon esprit et je peux me lancer
because the diagram
dans les
for the
scènes
entire
l'une après l'autre parce que
is inviolate.
Le plan est là et, and, yeah. Et il est inexpugnable en réalité. Je n'ai qu'à le suivre.
And beautifully laid
et
out.
Il est tellement bien ficelé ce plan
to where my confidence
que
in the story
je n'ai qu'à écrire et j'ai une confiance absolue dans le récit que je dois narrer.
So I can luminously
ainsi, c'est de façon lumineuse que je peux me plonger dans les moments que je décris à condition de ne pas transgresser de quelque façon que ce soit cette superstructure.
Non. Donc aucun doute, jamais, sur cette superstructure.
I do not.
Non, jamais.
Parfait. On marque une seconde pause, James Ellroy, avant de vous retrouver pour la dernière partie de cette interview. Votre second choix musical, c'est Nikolai Metner, Sonata, vous le dites mieux que moi.
Sonata Reminiscenza.
C'est interprété par David Kadouche.
Thank you.
Sonata Reminiscenza, interprétée par David Kadouche, c'est de Nikolai Metner et c'est le choix de James Elroy. La première page de Perfidia, la deuxième page, hein, y a d'abord un avertissement sur le terme de cinquième colonne, sur l'expression. Et puis ensuite, on arrive dans cette page, Reminiscenza, je me suis égaré dans la prairie en pleine tempête de neige il y a 25 ans. Le froid m'a envoûté et vacciné contre toute idée raisonnable. Très 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 belle page qui se termine par 23 jours, c'est le temps du roman. Cette tempête, Reminiscenza. Que veut dire cette première page et ce choix musical?
The heroine.
L'héroïne.
Of the second LA quartet, the overriding moral
voice. Le deuxième livre de cette
tétralogie,
La voix de la morale, c'est une jeune femme. Elle s'appelle Kay Lake.
Kay Lake is the lead female character.
C'est
in my much
le personnage
féminin
principal.
The Black Dahlia.
Dahlia Noire. Donc là, on passe de 1946, la première fois que l'on rencontre Kay Lake dans le Dahlia Noir,
à
qui elle était à l'âge de 21 ans, en décembre
1941.
Le prologue de Perfidia nous explique que Kay Lake est encore vivante. Elle nous hante, elle a près de 100 ans. Et elle se souvient des événements de décembre 1941. De tous les personnages principaux, elle est la seule qui ait survécu. C'était elle qui était la plus jeune, évidemment, lorsque les événements ont eu lieu.
And she is reliving the great adventure
elle revit la grande aventure de sa vie, qui est donc décrite dans ce livre et les trois autres livres qui viendront compléter la tétralogie.
Nikolai
Metner,
who lived from,
qui a vécu, voyons, de 1873 à 1952,
is long gone.
Et
even though he was
Russian,
Reminiscenza means reminiscence.
Bien que russe, donc Reminiscenza signifie réminiscence, évidemment. C'est une autre façon d'exprimer l'aspect mémoriel des choses. Kay Lake explique qu'elle ne mourra pas tant qu'elle vivra cette histoire. C'est une femme passionnée qui adore la vie. D'où cette histoire et cette grande histoire de la tétralogie.
C'est un très beau personnage, Kay. Donc effectivement, vous l'avez rappelé, elle était dans le Dahlia Noir. On a l'impression, James Elroy, que les femmes sont toujours à la fois les grandes sacrifiées de vos histoires. Et en même temps, on sent que ce sont elles que vous aimez par-dessus tout. Au fond, The Dog est vraiment l'ami des femmes.
Yeah, I like women. Yeah, that's true.
Mais quand on dit I like women, on pourrait penser qu'on les aime de façon physique ou c'est plus que ça. Si je vous cite,
women are romantic figures to me.
Des personnages romantiques.
Romantique. As it describes the physical conjunction.
Et là, je vous parle de la conjonction physique entre les hommes et les femmes. Mais il y a aussi un autre sens à romantique, donc il s'agit de romantisme, le romantisme symphonique,
the great movement of
le grand
19th century music
mouvement de la musique du 19e siècle,
with
qui a commencé avec Beethoven pour ensuite aller dans le 20e siècle, Rachmaninoff, Mahler, Bruckner, Wagner, ces gars-là.
Always at the heart of it.
Au cœur de tout cela, il y a forcément une histoire d'amour.
And that's the basis
et
of
cela
these big books
constitue la fondation, la
bad
base de
mes livres.
Donc des hommes mauvais qui aiment des femmes fortes.
Je vous cite James Elroy, « Je vois le monde à travers le prisme de Dieu, vous en avez parlé, et la conjonction sacrée des hommes et des femmes. Vous avez presque une vision mystique des femmes et de vos personnages de femmes.
Yeah, it's mystical.
Mystique, oui, oui, c'est bien dit.
I'm drawing on my reservoir.
Je puise dans
teenage angst and romanticism.
Ressources d'anxiété adolescente et de mysticisme. Et je me dis,
yeah, back to girls from 50 years ago.
Je pense aux filles d'il y a 50 ans.
Alors, évidemment, hein, ces filles ou ces femmes d'il y a 50 ans, il y a votre mère aussi, James Ellroy. Hein, je voulais qu'une femme ou que toutes les femmes soient elles. Est-ce que vous diriez encore aujourd'hui, et je précise encore aujourd'hui, que c'est vraiment elle ou son souvenir ou l'enquête que vous avez faite sur elle qui a fait de vous l'écrivain que vous êtes? Parce que même dans Perfidia, on retrouve une grande femme rousse que vous appelez Joanne. Vous n'en aurez jamais fini avec cette histoire?
I have left it behind.
Ah si, si, c'est derrière moi. Pour ceux qui ne connaissent pas toute l'histoire, en 1958, j'avais 10 ans, ma mère a été assassinée. C'est un crime qui n'a jamais été résolu. Moi, au milieu des années 90, j'ai mené ma propre enquête et j'ai écrit un livre là-dessus, Ma part dans l'homme. Et je n'ai pas trouvé l'assassin. Et voilà.
A cognizant person's explanation for their life
alors,
cannot be
pour expliquer sa vie,
or it was done to me.
Then you're nothing but a victim. Ça m'a été infligé parce que si on a ce raisonnement-là, eh bien, on se pose en victime.
This occurred to me.
Ce phénomène a eu lieu. Ça a évidemment frappé quelqu'un d'autre proche de moi. Et évidemment, ça a une influence importante sur ma vie. C'est comme ça qu'il faut que je décrive cela en ce qui me concerne.
Mais est-ce que vous parliez tout à l'heure de points de convergence, hein, quand vous parliez de votre technique romanesque? Est-ce qu'on pourrait, cette histoire, cet événement fondateur, en faire aussi le point de convergence, en fait, de votre imaginaire d'écrivain? Est-ce que tout vraiment par-delà? Maintenant que vous avez la distance, hein, est-ce que vous pourriez dire que, voilà, le meurtre de votre mère reste le point de convergence imaginaire de toute l'œuvre d'Ellroy?
Yes, yeah, that's very well put. It's a
oui,
point, it's a point
c'est fort bien dit. C'est un point de convergence, en effet. Et moi-même, ce que j'ai fait, c'est que je me suis penché là-dessus jusqu'au très fond de ma conscience. Et c'est ainsi qu'ayant fait ce parcours, eh bien, je passe à autre chose, j'avance. L'influence fondamentale qui meut mon travail, c'est l'histoire.
C'est toujours le projet de fabriquer ou de donner à lire une contre-histoire des États-Unis, un underworld, en fait, aux États-Unis.
Underworld connotes Don DeLillo's great
alors,
book.
Underworld, évidemment, ça fait référence au livre formidable de
What
Don DeLillo.
These historical books of mine
ces romans historiques que j'écris, c'est l'infrastructure humaine secrète des grands événements de l'histoire mondiale.
Quand on regarde vos personnages, on a parlé des personnages de femmes, il y a beaucoup plus de scènes d'amour aussi dans Perfidia. C'est ce qu'il y a de plus difficile à écrire, les scènes d'amour, la sexualité. Diriez-vous que c'est la chose la plus difficile à écrire?
Non. Sex scenes discreetly.
Des scènes de sexualité, j'en écris souvent, mais j'essaie de le faire avec discrétion parce que je ne veux pas violer l'intimité des personnages qui sont les miens.
And so I retain a decorous distance.
Et quand je me tiens à une distance que je veux élégante.
It's 1941.
Donc, rappelons-nous que nous sommes en 1941.
C'est
le mois de décembre. On est le 7, 8, 9, 10 décembre. Et on arrive jusqu'à la fin décembre. L'Amérique est dans la merde. Le monde est dans la merde. Les citoyens japonais américains à Los Angeles sont dans la merde. Les gentils sont dans la merde. Les méchants sont dans la merde.
Et
évidemment, il y a du sexe là-dedans. Et donc, évidemment, on a peur de tout ce qu'on fait.
Voilà, peur là en bord. Vous parliez d'histoire et de la façon dont vous incorporez l'histoire à vos romans, à votre roman, hein, puisqu'on peut imaginer ça à chaque fois comme des grandes cathédrales, puisque c'est un quatuor. Alexandre Dumas est quelqu'un que vous avez lu, je crois. On lui attribue une citation à Alexandre Dumas. On dit qu'il aurait dit que un écrivain a le droit de violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants. Est-ce que c'est une définition de l'activité d'écrivain plongé dans l'histoire qui vous va ?
I like it.
Oui, ça me plaît, ça me plaît.
I like it as it pertains to writing big historical books.
Oui, s'agissant de l'écriture de grands livres historiques.
Je voudrais qu'on dise un mot, James Ellroy, quand même, de deux personnages, les personnages de policiers, alors de Perfidia, mais de toute votre œuvre. Quand on les regarde, et quand on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire récente des États-Unis, à Baltimore, à Ferguson, sur les violences policières, on se dit, en fait, on a l'impression que les policiers américains essaient de ressembler à des personnages de James Ellroy.
I like that. I appreciate
merci.
Any. I love American cops.
C'est gentil, moi j'adore les flics américains.
About Ferguson,
et je ne vous parle pas de Ferguson. Hein.
About Baltimore,
et je ne vous parle pas de Baltimore. Parce que ça n'a rien à voir avec mon livre Perfidia. Les policiers américains sont les êtres humains les meilleurs que j'ai jamais rencontrés. Et je m'en tiendrai là.
Alors, pour terminer, James Ellroy, je vais vous proposer quelque chose qui va peut-être surprendre le réactionnaire que vous êtes. J'ai retrouvé chez Marx, l'auteur du Capital, dans Théorie sur la plus-value, en fait c'est dans le livre 4 du Capital, il parle du criminel, il parle du crime. Il dit « Le philosophe produit des idées, le poète des poèmes, l'ecclésiastique des sermons, le professeur des traités. Le criminel, lui, produit des crimes. Plus le criminel produit tout l'appareil policier et judiciaire, gendarmes, juges, bourreaux, jurés. » Il continue. Et il termine, il dit « Le criminel interrompt la monotonie et la sécurité de la vie bourgeoise. Il la protège contre la stagnation et fait émerger cette tension à fleur de peau et cette mobilité de l'esprit sans lesquelles le stimulus de la compétition elle-même serait fort mince. »
Bullshit.
C'est des conneries.
Bullshit. Crime is always wrong.
Le crime,
and
c'est
its
interdiction
mal, and its suppression.
Et c'est
and it's just
de la suppression.
Is always
et il
right.
faut toujours, et c'est juste que de punir, d'interdire et de sanctionner le crime.
Mais pourtant, James Ellroy, de ces crimes, vous faites l'élément déclencheur de ces grands romans, de ces cathédrales que vous faites. Donc vous aussi, au fond, le crime, vous en faites quelque chose.
Crime is interesting.
Le crime, c'est intéressant. Le crime,
engaging
c'est
in its exposition
intéressant
of aberrant
parce que cela expose des comportements aberrants.
My depiction
et dans ma
and the depiction
description
of other
du crime
writers,
et dans les descriptions qu'en font d'autres écrivains, il faut
eradicated.
Que le crime soit éradiqué.
Merci, James Ellroy.
Hey.
Merci beaucoup. On se quitte avec votre dernier choix musical, Anton Bruckner. C'est la 7e symphonie, 2e mouvement, sous la direction de Eugen Jochum. Et c'est interprété par l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Merci, James Ellroy. Donc, je rappelle le titre de votre dernier livre, Perfidia. C'est chez Rivage. C'est traduit de l'anglais par Jean-Paul Gratias, hein, votre traducteur. Si vous voulez rencontrer James Ellroy, cap sur le festival America à Vincennes qui bat son plein jusqu'à demain. C'est un événement que soutient France Culture. Au revoir James Ellroy.
Hey.
Oh. Au revoir Xavier Combes, vous avez interprété cette émission. On reçoit tout de suite notre libraire de la semaine. Il s'agit aujourd'hui de Pascal Thuot. Bonjour Pascal Thuot.
Bonjour.
Vous nous venez de la librairie 1000 pages à Vincennes, évidemment à l'occasion du festival America qui se poursuit jusqu'à demain. On était avec James Ellroy à l'instant. Alors vous avez choisi, Pascal Thuot, le livre d'Emily St. John Mandel, Station 11. Il est traduit de l'anglais, enfin ça vient du Canada, par Gérard de Cherger, c'est publié chez Rivage. C'est un livre qui était finaliste au National Book Award. Elle est présente, hein, Emily St. John Mandel. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce livre post-apocalyptique ?
Bah, écoutez, ce qui m'a intéressé, c'est que ce livre s'ouvre sur une tragédie qui en cache une autre, bien plus importante que la première. La première, c'est la mort brutale d'un acteur adulé qui s'appelle Arthur Leander, qui meurt foudroyé par une crise cardiaque sur scène. Évidemment, cette mort émeut ses admirateurs, mais derrière cette mort, il y a une tragédie bien plus grande qui se joue, puisqu'une pandémie commence son œuvre un peu partout dans le monde et va détruire en quelques semaines 99% de la population mondiale. Donc on est vraiment dans un type de roman qui nous rappelle des grands films catastrophes et d'autres romans du même type. Mais dès le départ, elle réoriente complètement son propos, puisqu'elle en fait aussi un roman sur l'art et sur ce qu'il reste de tout ce qu'on a pu amasser, construire, développer. Très vite, on est 20 ans plus tard, avec une compagnie, la bien nommée Symphonie Itinérante, qui est faite de comédiens et de musiciens et qui perpétue la tradition shakespearienne entre les différents îlots de survivants. En 20 ans, le monde a vécu bien des transformations, mais il s'est stabilisé d'une certaine manière après un chaos quand même assez considérable, et ces communautés humaines commencent à reprendre une forme de société nouvelle. On est dans un monde totalement régénéré où la nature a repris ses droits, où l'humanité qui reste, elle, a composé avec ce nouveau monde où les animaux sont beaucoup plus présents. Donc on a là l'art, on a là cette tragédie, ce livre fait de subtil, le curseur du temps en fait passe du présent au passé, tout en laissant le lecteur toujours dans le présent, c'est-à-dire que malgré les grands mouvements qu'on va faire entre l'époque d'avant la catastrophe, l'époque de la catastrophe et l'époque de l'après-catastrophe, on a toujours le sentiment de vivre avec les personnages qui sont tous très attachants. Là où elle est remarquable, c'est que tous ces fils narratifs convergent et rendent ce livre absolument d'une beauté extraordinaire.
Merci beaucoup Pascal Thuot donc pour ce conseil de lecture dont Station 11 de Emily St. John Mandel, c'est publié chez Rivage, c'est traduit par Gérard de Cherger et donc elle est au Festival America. Tout se passe
tout
bien
fait.
Au festival?
Oh, écoutez, on vit un grand bonheur. Bon. Beaucoup de travail, mais tout se passe très bien. Les gens sont au rendez-vous et les événements sont tous plus formidables les uns que les autres.
Parfait. Donc, j'invite les auditeurs à s'y rendre et à découvrir votre belle librairie, la librairie 1000 pages à Vincennes. Merci, Pascal Thuot.
Merci, Christophe.
Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Anne-Laure Chanel, Pierre Montaille à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur France Culture. Cette émission avec James Ellroy que nous recevions à l'occasion du festival America à Vincennes.